Bonsoir, il est 18h, nous sommes le lundi 20 septembre, vous écoutez Radio Campus Paris en FM, sur le web ou peut-être même ailleurs, et c'est l'heure de la relève et de la rentrée.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, Radio Campus Paris fait sa rentrée ce soir et à la relève, on est content de vous retrouver cette année encore pour parler tous les lundis ou presque pendant 30 minutes cette année de jeunes talents. Pour bien commencer, on va parler de couleurs et de lignes, d'identité et de paysage, de visuel, mon invité est bédéaste. Bonjour Léa Muraviec.
Bonjour.
Vous publiez votre premier album aux éditions 2024, ça s'appelle Le Grand Vide. Et s'il y avait des prix d'automne pour la bande dessinée, vous seriez sur quelques listes, j'en suis certain. Mais pour commencer, je vais vous demander pourquoi vous n'aimez pas le jaune.
J'adore le jaune. Il y avait du jaune au début dans la colorisation de cette bande dessinée, mais j'ai préféré réduire pour être plus à l'essentiel.
Oui, on va expliquer. Il y a deux couleurs, du bleu, du rouge, et puis le blanc et le noir. Le noir pour faire les contours parfois, et pour aussi que vous utilisez comme une couleur, et le blanc de la page. Donc vous aviez envie d'être quelque chose d'un peu radical, d'être très... C'est peut-être des mesures d'économie, tout simplement. Avec deux couleurs, c'est plus simple que trois.
En fait, c'est la bichromie, donc deux couleurs, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans mon travail. Parce que moi, je viens de la micro-édition, du fanzine, et du coup, ça coûte moins cher d'imprimer dans un spectre de couleurs plus réduit.
Je ne suis pas du tout une fixation sur le jaune, même si avant de commencer, on réalisait que j'avais sorti tous les trucs jaunes que j'avais sur moi, une bonnette jaune, un stylo jaune. J'avais vraiment pas préparé le truc. Mais c'est la couleur dont on peut le plus facilement se priver quand on dessine, quand on fait une BD. Pour vous, c'est peut-être la plus simple, peut-être pas pour d'autres, je sais pas.
Alors, ça dépend. Bah, là, récemment, j'ai fait une bande dessinée avec du jaune, justement. Mais non, bah, c'est vrai, comme c'est une couleur claire, du coup, elle est plus difficile à utiliser. Elle a moins de force, on va dire, que le violet ou le bleu, qui sont plus sombres.
Alors, l'héroïne du Grand Vide s'appelle Maëlle Naher. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est
Alors,
vous avez quand même passé pas mal de temps avec elle, je pense que vous la connaissez bien.
Oui. Oui, bah alors c'est Manel, c'est une jeune femme qui est très déterminée, en tout cas à partir de la ville immense et infinie dans laquelle elle habite avec son meilleur ami Ali, et elle va se retrouver un peu confrontée à un gros problème qui est que dans cet univers où si on est oublié, on meurt, elle va se retrouver avec un homonyme du coup, qui a exactement le même nom et prénom qu'elle et qui va l'empêcher de réaliser ses objectifs.
Oui, car cet homonyme est une chanteuse qui chante un tube, c'est une sorte de Lepin, je dirais Laurie, je ne sais pas, c'est peut-être plus... c'est vrai que je suis vieux. L'équivalent, enfin, en tout cas, une chanteuse qui est très populaire chez les adolescents, et qui est donc portant le même nom. Quand les gens pensent à ce nom-là, ils ne pensent plus personne ne pense à cette jeune fille qui va quasiment risquer. Faillir en mourir, je ne sais pas si on peut le dire, je ne voudrais pas trop en dire. Donc dans cet univers, il faut qu'on se souvienne du nom de la personne, c'est le nom lui-même qui fait que les gens peuvent accéder à une forme d'immortalité. Comment vous est venue l'idée de construire tout cet univers autour du souvenir, du nom ?
Alors à l'époque où j'ai eu l'idée, donc j'ai commencé par avoir l'idée de ce principe, du coup si on est oublié, on meurt, et c'était vraiment plus dans une logique de mémoire. Donc si on oublie quelqu'un, en fait, tout simplement, il disparaît. Et je lisais beaucoup de choses autour de la mort, de la mémoire. Je lisais Borges, qui a fait certaines fictions là-dessus. Mm-hmm. Et du coup, à partir de là, j'ai essayé de développer une histoire dans cet univers qui m'a embarqué peut-être plus sur le terrain de la célébrité.
Et c'est cette idée quand même autour du nom chez vous qui est très marquée. Alors je crois que j'ai eu une interview de vous, vous disiez aussi que ce qui vous intéressait, c'était tout l'univers, tout ce qui concerne, je vais pas y arriver, tout ce qui concerne la mémoire des morts, des tombes, des pierres tombales, voilà le mot que je cherchais, les pierres tombales, où on marque les noms et pourquoi on les marque, puisque finalement on oublie un jour les gens, les noms s'effacent, on fait une rentrée très joyeuse à la relève, mais c'était ça. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser qu'il y avait un artiste contemporain, donc je ne sais pas si vous aviez vu l'œuvre, qui avait fait une tombe où les gens avaient mis le nombre de likes au lieu de mettre le nom, où les deux se rejoignent.
Non, je ne connais pas.
Non, vous n'aviez pas pensé à ça ?
Non, non.
Ce qu'on voit très bien dans votre livre, c'est que ça force d'être obsédé par ce que vous appelez la présence, parce que dans le livre, dans cet univers, on appelle la présence, qui est un univers qui nous ressemble. Est-ce qu'on est dans le futur ?
Non, en fait, on est un peu nulle part, on est dans un univers parallèle, je pense. J'ai fait en sorte de vraiment le décontextualiser le plus possible, d'être dans une ville immense qui pourrait ressembler à la fois à Shanghai, où j'ai un peu habité, à New York, ou plein d'autres mégalopoles en fait assez impersonnelles. Et puis j'ai dessiné que des voitures des années 80 parce qu'elles sont carrées, c'est plus facile. Et voilà, après, non, j'ai vraiment aussi essayé d'éviter le plus possible d'utiliser la technologie, parce que je pense qu'avec avec l'idée que si on est oublié, on meurt, je pense qu'il y avait un parallèle vraiment très fort à faire avec les réseaux sociaux que je voulais plutôt éviter, en fait, pour pouvoir vraiment développer une fiction divertissante en dehors de tout parallèle un peu oppressant avec la réalité et construire un univers en soi.
Mais c'est ça, c'est plus le parallèle qui vous embêtait que l'idée en soi de parler des réseaux sociaux, par exemple.
Oui, en fait, je voulais pas que ce soit trop évident parce que sinon, je pense qu'on aurait trop été rapporté à notre réalité en permanence, en fait. Et j'avais envie que ce soit plus métaphorique et peut-être plus philosophique pour aller vraiment creuser cette idée.
Mais vous allez très loin parce que, par exemple, vous lui inventez un travail qui est de lire des noms. Il y a des gens qui, dans votre univers, sont payés pour lire des noms pour pas qu'on oublie ces gens-là. Donc, on imagine qu'il y a toute une économie autour de ça. Ça tout crée tout cet univers cohérent. Et pour l'avoir lu, il me semble qu'il est complètement cohérent. Ça a pris beaucoup de temps ou ça s'est assez vite mis en place?
Oui, l'écriture, ça a pris beaucoup de temps, mais j'avais vraiment envie de me donner ce temps-là pour aller à fond, en fait, parce que moi, j'ai fait des études d'image, et du coup, l'écriture et l'histoire, c'est quelque chose qu'on met pas toujours en avant et que j'avais vraiment envie d'explorer le plus possible. Et donc, j'avais envie de bien faire les choses. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de temps, oui, à écrire cette histoire, enfin, beaucoup. Voilà, ça a pris à peu près autant de temps que de dessiner, au final.
Ah oui, donc quand vous dites que ça a pris 2 ans, c'est dessin et histoire ou l'ensemble?
C'est l'ensemble, oui, voilà. Enfin, non, j'ai eu l'idée il y a très longtemps, mais comme beaucoup de premiers projets, en fait, on a cette idée-là qui nous vient en tête pendant nos études. Et puis, on attend, en fait, patiemment d'avoir
Ah oui.
l'opportunité de pouvoir développer cette histoire une fois qu'on sort des études, par exemple.
C'est pas par exemple une idée que vous aviez laissée tomber, puis que vous avez retrouvée, puis que vous avez reprise. Non, c'est quelque chose que vous aviez vraiment mis dans un coin, sachant qu'un jour vous auriez envie d'écrire dessus.
Oui, voilà. Et puis après, l'opportunité nous tombe dessus. Bon, moi, ça, c'est, j'ai eu de la chance. Ça, c'est arrivé très vite après mes études, mais parfois, ça met des années et ça prend une ampleur énorme. Mais j'avais vraiment envie d'avoir le temps, en fait, et pas faire ça, en rentrant le soir, après l'école, par exemple.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une forme. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la science-fiction. Vous appelez ça de la science-fiction, vous?
Moi,
Parce que
j'appelle
vous dites un
ça.
univers parallèle, donc je ne sais pas très
Ouais, ben.
bien. Enfin, non, c'est pas une uchronie. Ça pourrait être en ce moment presque.
Ben, il y a Maël Ranou qui avait fait un parallèle intéressant et qui avait appelé ça de la réalité parallèle.
Voilà, on va
Voilà.
dire donc une histoire de réalité parallèle. Mais il n'y a pas du tout de ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent surtout quelque chose de très humain, qui est le poids du système social sur les individus. C'est quelque chose qui vous intéressait?
Oui, bien sûr. En fait.
Parce que Maëlle, elle est en lutte finalement, et peut-être qu'elle va se faire rattraper ou pas, on n'en dira pas trop.
Oui, il y a un peu cette idée que bah, elle avait pas, peut-être qu'à la base, elle n'avait pas tant que ça de ressources sociales, en fait, pour pouvoir vraiment avoir une vie plutôt agréable et confortable. Et que, en fait, elle a tellement tout concentré sur fuir cette réalité qu'elle se retrouve vraiment démunie une fois que le malheur s'abat sur elle.
Vous connaissez Lin, alors j'ai essayé de bien dire son nom, Lin Yu Yu.
Non.
Mais je vous propose quand même de l'écouter.
En utilisant le plus de données possibles, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société.
Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiaowen Wang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, ville test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dettes. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue.
En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social.
Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wen Wang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wen Wang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix.
Alors, Li Niuyu est le théoricien et l'inventeur du crédit social. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait de France 24, un programme qui s'appelle Focus, dont vous retrouvez les coordonnées complètes sur le site de La Relève, sur radiocampusparis.org.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Ce que j'aimais bien c'était dans cet extrait, c'est pas tant qu'on parle de réseau social, comme vous disiez, hein, c'est pas ce que vous voulez faire, c'est qu'on sent très bien le poids de la pression de la société sur un individu avec toujours cette dame qui dit « moi j'ai rien à cacher », c'est toujours formidable ça.
Oui, en fait, je connaissais pas le créateur.
Moi non plus avant de préparer l'émission, hein. Je vais pas mentir.
de ce crédit, mais oui, je connaissais ce principe.
C'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose que comment vous regardez ça, vous qui êtes jeune?
Bah oui, évidemment, mais après, enfin, les dérives, on les voit pas forcément venir. Mais c'est vrai que s'il y a un parallèle à faire avec mon histoire. Je dirais que j'ai plutôt cherché à éviter cette idée que le système se resserre autour des individus et les étouffe, mais c'est plus, disons, que les individus tous ensemble, vers un mouvement très lent, vont vers une forme d'asphyxie sociale, mais...
Ouais, c'est quelque chose d'assez oppressant, finalement. Oui. Alors que la BD est assez aérienne, vous avez un dessin qui est très, très dynamique, très en mouvement. Et en même temps, ce qui est raconté est quelque chose d'assez oppressant. Je ne sais pas si vous avez cherché ce décalage ou si c'est un résultat que vous avez observé vous-même.
Alors, je pense que j'étais partie vers quelque chose d'assez oppressant dès le départ. Et que plus j'ai travaillé mon histoire et plus ça a confirmé ce sens-là.
Vous, quand vous le voyez, vous trouvez vos dessins oppressants?
Je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop de recul sur mes propres dessins, mais bon, il y a des passages qui le sont, il y a des passages qui le sont pas trop, du coup qui sont plutôt marrants, j'imagine.
Non, même votre dessin, je vous dis, comme il est très dynamique, très en mouvement, on est toujours entre... Et que Maën, j'ai peur de mal dire son prénom, Manel Naher est quand même quelqu'un qui est très dynamique, donc on sent plus une oppression psychologique. vous savez mieux que moi. Puis d'autres lecteurs trouveront sûrement d'autres choses. On parle parfois d'Uchronie, peut-être en lisant votre livre. Là, vous disiez, vous avez parlé de réalité parallèle. Moi, je trouvais qu'il y a quelque chose de l'ordre du conte, du mythe. Est-ce que c'est des choses dont vous avez relu, vous êtes alimenté à ça, les grands mythes?
Pas spécialement. C'est pas forcément ma lecture de prédilection. C'est vrai que cette histoire a une apparence un peu de fable. Je pense qu'il y a une forme de cheminement et d'évolution assez radicale du personnage principal qui pourrait s'apparenter à la fable. Mais j'ai essayé de me détacher justement de la morale finale nous dit quoi faire à la fin.
Ouais, ça, il n'y a pas de jugement moral sur les réseaux, c'est pas votre propos.
Non.
Ça, vous l'avez bien redit. Et c'est vrai que par paresse, on pourrait tenter de dire que vous parlez des réseaux, pas du tout.
Non, et puis j'avais vraiment envie de laisser le plus d'espace possible, malgré certains passages oppressants, mais j'avais envie de laisser l'espace intellectuel, peut-être philosophique à mon lectorat, qui puisse un peu se retrouver dans certaines choses que je laisse en suspens. Et puis je pense que cette idée de base que si on meurt quand on est oublié, je pense que ça crée assez vite que... chacun se représente un peu ses propres angoisses à travers cette équation et j'avais pas envie d'arrêter un jugement moral là-dessus. Je pense que ça aurait été peut-être un peu dommage par rapport à l'imaginaire de mon lectorat.
Vous vous dites très influencé par le manga.
Ouais.
Ça, c'est surtout dans la manière dont vous dessinez les personnages. La manière dont, par exemple, parfois une jambe va sortir du cadre. J'adore ces plans où on la voit courir de dos, elle a des jambes très très longues. Ça, c'est le manga qui autorise à faire ça.
J'en sais rien. En fait, la référence au manga m'est venue assez récemment. Enfin, disons que je ne l'avais pas en tête quand je dessinais, mais c'est vrai que j'ai lu énormément de mangas quand j'étais ado, puis j'y reviens là assez régulièrement. Mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai vraiment conscience quand je travaille. Je pense que je cherche surtout à me faire plaisir et à ce que la lecture soit super fluide et dynamique.
La manière dont vous dessinez les images, par contre, moi, elle m'a carrément fait penser à... plutôt à des photos de New York des années 40-50. Vous citiez Shanghai, mais c'est vrai que Shanghai, par certains côtés, ressemble à New York. C'est cette ville tout en lumière, avec des gratte-ciels. C'est des références que vous aviez ou là encore
C'est vrai que pour les immeubles, j'ai travaillé pas mal à partir de références photographiques, mais plus à partir du travail de Michael Wolff, qui est un photographe qui a photographié beaucoup de gratte-ciel de Hong Kong, par exemple, et qui a fait une série de photos qui s'appelle Architecture of Density, et qui sont vraiment impressionnantes. C'est vraiment des photos très, très plates, en fait, d'une concentration folle d'immeubles. Et je m'en suis pas mal inspirée pour le travailler même comme des motifs, en fait.
Il y a un truc qui est terrible. Alors, je sais pas, je suis sûr que vous l'avez pas fait exprès, c'est un peu une plaisanterie ce que je veux dire. Mais on a presque envie d'en acheter un deuxième pour pouvoir le découper et encadrer certaines planches
allez-y.
Tellement elles sont belles. et notamment, vous l'avez pas fait exprès quand même. Et notamment toutes les images de la ville, il y a certaines doubles pages. Et c'est pourtant très simple, enfin d'apparence en tout cas. Et j'imagine que c'est beaucoup de travail pour arriver à ce que ce soit juste, comme vous disiez tout à l'heure. C'est par exemple toutes ces typographies avec tous ces noms qui recouvrent les immeubles. Alors j'ai lu que vous aviez étudié la typographie.
J'ai fait des études de graphisme à l'école Estienne. Donc dedans, il y a eu certains cours où j'ai étudié la lettre, où je l'ai dessinée. Mais c'était quelque chose que j'aimais déjà faire. À la base, j'étais intéressée même pour étudier plus profondément la typographie. Et c'est quelque chose que je dessinais aussi beaucoup quand j'étais petite.
C'est un plaisir pour vous, justement. C'est quelque chose que je me demandais. Est-ce qu'on a le même plaisir à écrire un nom, à trouver une typographie que pour faire un dessin? Ça paraît plus évident quand on sait dessiner qu'on aime dessiner.
Ah oui, moi personnellement, j'aime beaucoup dessiner la typo et je la vois un peu comme un dessin en soi. Et donc, je l'ai vraiment intégrée à mes images comme si c'était des dessins, des formes abstraites. Bon, la typographie, c'est quand même une souffrance pour beaucoup d'illustratrices et d'illustrateurs. Donc, moi, j'ai de la chance que...
D'aimer
plutôt faire ça.
Il y a toujours toutes ces vues extérieures de la ville, de la grande ville. Il y a partout des noms et on voit bien que vous avez travaillé. Il y a rarement deux fois la même typo. Donc, c'est... Pas parfois vous reprenez des décors, j'imagine, quand même, mais il y en a beaucoup et c'est, ouais, donc ça suit dans la.
Et puis, je sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave parce qu'il faut qu'on écoute de la musique, le temps passe, il est déjà 18h17, bientôt 18 sur Radio Campus Paris. On écoute Billie Eilish, Happier Than Ever.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. Do you read my interviews or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know, when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Call me again, drunk in the Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this. You made me hate this city, and I don't talk about you.
Elle va s'arrêter, oui. Et voilà, elle s'arrête. On est toujours à la relève avec Léa Muraviec, qui est l'autrice et la dessinatrice. On dit ça, autrice et dessinatrice, pour la BD ?
On peut dire autrice, ça marche
autrice
pour les deux.
Autrice tout court, ça sous-entend les deux. Du Grand Vide, qui est apparu aux éditions 2024, je rappelle, c'est une première BD. D'ailleurs, vous dites BD, vous ne dites pas roman graphique, ça ne vous gêne pas ?
Non, je préfère BD, oui.
Moi aussi, je trouve que roman graphique, c'est prétentieux.
Ah bon ?
Donc ça me va bien que vous répondiez ça. Vous aimeriez transformer votre BD en film ? Personnellement, je rêve de voir la fin de 10 minutes sans un mot. Ça pourrait être magnifique, là. Tout serait beau, hein, mais la fin particulièrement, j'adorerais la voir.
Ouais, ça serait sympa. Ouais.
Et sinon, vous travaillez, vous, dessus, en animation?
Pas du tout. J'ai plein d'amis qui me pressent de faire de l'animation, mais non, j'ai vraiment tenu à rester dans la BD pour vraiment me concentrer sur tout ce que peut me donner comme possibilité graphique.
Mais est-ce que vous aimeriez le voir?
Ah oui, bien
ça
sûr.
Vous plairait, c'est ça aussi que je veux savoir. Non, vous pourriez vouloir que vos images restent comme ça et qu'on n'y touche pas. Ça pourrait vous plaire ?
Oui, oui.
Alors, juste pour revenir sur ce qu'on disait, c'est un peu avant sur votre travail, là, sur le Grand Vide, hein, donc votre BD, il y avait un thème dans les années 60-70 autour des grands ensembles, l'angoisse des villes qui, moi, me semble, avait un peu disparu après. Et votre livre un peu exprime ça, l'angoisse de la ville. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous vivez ? Quel est votre rapport à la ville ?
Peut-être un peu, oui. En tout cas, je pense que peut-être qu'il y a une angoisse de la densification et de la production et de se sentir un peu écrasé par la densité et le surnombre.
Ça veut dire que si vous avez vécu à Paris, à Shanghai, c'est des villes très denses.
Mais oui, mais il y a aussi un peu ça. Dans la bande dessinée, il y a énormément de sorties chaque année. Et il y a un peu cette angoisse de se retrouver assez vite noyé sous plein de sorties. Mais,
ouais. Dans la sortie d'album.
Oui, en fait, j'avais un peu aussi en tête mes passages en librairie, par exemple, où je vois beaucoup de noms et beaucoup de gens qui font des bandes dessinées comme moi et comme moi qui ont envie que leur travail existe et survive et qui se retrouvent un peu noyés.
Là, vous êtes contente, l'accueil est plutôt bon de ce que j'en ai vu.
C'est impressionnant et je suis très contente.
Vous avez l'honneur de passer à la relève, mais vous avez eu, on a parlé de vous avec beaucoup de bien, Télérama, j'ai vu France Culture, vous êtes dans les librairies de BD très bien placées pour un premier album.
Ouais.
Pour un premier album, justement, il y a une particularité, il fait 200 pages, couverture cartonnée, donc j'imagine que ça coûte cher à produire. Est-ce que c'est difficile de trouver un éditeur qui est prêt à faire ce pari fou ?
Oui, c'est difficile.
Vous avez mis du temps à trouver quelqu'un qui dit « ouais, banco, j'y vais dans ces conditions-là » ?
Alors moi, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé assez vite, puis je connaissais déjà mes éditeurs avant de publier chez eux.
Mais ils ne savaient peut-être pas que vous alliez leur ramener 200 pages
Ils ont l'habitude de faire des livres un peu vraiment uniques à chaque fois, dans le format, le nombre de pages, l'impression. Donc je pense qu'ils ont accueilli très bien ça, en tout cas.
Oui, parce que vous, du coup, vous faites tout. Vous n'avez pas de coloriste. C'est vous qui avez travaillé. D'ailleurs, on voit des fois encore la marque du travail. C'est très, très joli sur certains dessins. Je ne vais pas vous faire le coup du Madame Bovary, c'est moi, mais l'histoire de Maëlle Naher, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui veut résister au monde, à ses injonctions. Est-ce que c'est un peu la vôtre ?
Peut-être, mais je pense qu'un peu comme Manel, parfois, je m'embarque un peu je monte sur mes grands chevaux pour avoir l'air plus sûre de moi. Et puis, au final... J'ai peut-être un peu peur de me laisser embarquer par des choses que j'annonce fièrement et puis que j'ai du mal à tenir derrière, en tout cas des engagements, par exemple.
Mais dans le monde autour de vous, je reviens un peu encore à ça, mais vous vous sentez oppressé, vous êtes appartenez à cette génération, à cette génération qui a moins de 30 ans. Là, ce qu'on appelle, je ne vais pas arriver à dire le mot, donc je vais le dire autrement, la peur, par exemple, qu'il y a à l'environnement par rapport à la pollution, c'est des choses que vous ressentez, que vous vivez ?
Ah oui, bien sûr. Et puis, je pense que ça n'existe pas que dans ma génération. Malheureusement, c'est quelque chose qui se propage parce que c'est un danger réel, en tout cas.
Vous identifiez donc à ce personnage ? Elle vous ressemble ?
Oui, et puis je pense que...
C'est une version idéale de vous, c'est...
Oh, bah, j'espère pas.
Non, elle peut être un peu méchante, c'est vrai qu'elle peut être un peu dure.
En fait, en travaillant, en écrivant cette histoire, je me suis rendu compte que quand on insufflait de ses peurs personnelles à ses personnages, les personnages prenaient beaucoup plus vie, en fait, avec leurs forces, mais surtout leurs faiblesses, finalement.
Vous allez continuer ? Vous aimeriez écrire la suite ? Ou c'est vraiment une page tournée ? Parce qu'il pourrait y avoir une suite.
Il pourrait, mais j'ai pas trop envie pour le moment. Puis j'ai envie de changer un peu d'univers aussi. Et voilà.
Vous savez sur quoi vous allez travailler déjà ?
J'ai une petite idée, mais c'est vrai que là, comme je suis en plein dans la sortie de ce livre et tout, peu du mal à m'extraire et de me retrouver un peu de nouveau dans cette petite bulle isolée d'écriture.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez besoin d'être d'avoir du temps, comme vous dites que vous ne voulez pas faire ça à côté de vos études. Là, c'est pareil, vous attendez d'avoir vraiment complètement le temps pour vous y mettre.
Ah oui, et puis travailler à plein temps sur un projet, ça demande du temps et de l'énergie, et l'énergie, on l'a quand on a du temps. Et c'est vrai que, en tout cas, quand on est en pleine recherche d'écriture, on bassine tout son entourage avec le même thème, on lit des livres sur la même chose et le même sujet.
Vous avez justement beaucoup lu sur ce sujet ?
En fait, j'ai lu des choses assez différentes. Je pense que j'ai lu...
C'est alors Borges.
Oui, voilà, Borges, puis des essais sur la mort et l'histoire des mœurs, mais aussi des récits très sociologiques. Donc, j'essaye de ne pas rester trop attachée au même type de lecture.
Donc là, on peut vous demander sur quoi vous lisez. Peut-être qu'on arrivera à savoir ce que vous allez faire après.
Alors là, je lis Dune pour pouvoir aller le voir au cinéma.
Avant, vous lisez avant.
Oui.
Donc, je ne peux pas vous demander ce que vous en avez pensé.
pas encore, je n'ai pas fini.
Moi, je peux dire, j'en ai pas pensé beaucoup de bien.
D'accord.
Mais tout le monde s'en fout de mon avis. Merci beaucoup Léa Muraviec. Et puis comme je vous le disais avant qu'on commence, c'est un très joli clin d'œil que votre présence, parce que vous avez quasiment le même nom que ma grand-mère. Et ça m'a fait penser à elle, et j'ai trouvé ça un drôle de clin d'œil pour un livre qui parle de l'oubli. Voilà. C'était La Relève, elle était produite, présentée par Christophe, elle était réalisée par Colin. Colin qui, me dit-on, vous allez retrouver dès 19h pour la matinale de Radio Campus. Vous retrouvez tout sur le site internet de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Nous, on se retrouve dans 15 jours. On sera déjà au mois d'octobre et peut-être bien même déjà en automne. Et on parlera de ce qui nous rend tous dingos, l'amour évidemment.